Ah, est-ce qu'on est bien là?
Ouais,
on est bien.
On allumerait pas la radio?
Ouais.
Bon, on s'écoute Bartas alors, hein?
Ouais.
On s'écoute Bartas?
Ouais, on s'écoute Bartas.
On s'écoute Bartas.
C'est sur 107, ça?
Les matinales de Bartas, de 8h à 9h, sur le 107 FM.
Bon, allez, ambiance, bruit de plage.
Et bonjour à tous et bonjour à toutes, auditeurs et auditrices, et bienvenue dans les matinales de Radio Bartas. En ce merveilleux mercredi 13 juin, jour qui précède le 14, date extrêmement importante de mon anniversaire, et surtout, dernière matinale du mercredi que j'anime sur ces ondes et en ce plateau, avant que vous retrouviez le prochain sur cette antenne. Et du coup, pour cette avant-dernière, puisqu'il restera la matinale de vendredi, eh ben je vous ai préparé des petites surprises, des petits machins. On a beaucoup de choses à voir ce matin. Mais c'est toujours un plaisir, bien évidemment, de se lever à des heures absurdes pour vous faire plaisir comme ça, auditeurs, auditrices, surtout que c'est les dernières fois que je le fais, là pour le coup, littéralement. Donc, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir se voir du coup ce matin? Eh bien, d'abord, avant toute chose, les infos vont un petit peu changer, puisque vous n'êtes pas sans être au courant, à mon avis, du magnifique accident, dont on a eu droit justement sur la 106, qui a fait alors énerver un petit peu tout le monde, puisque c'est quand même la quatrième qui arrive depuis quoi? Depuis 20 ans, je crois, de camions qui s'est renversé et qui s'est renversé lui-même et qui a renversé tout son contenu dans les rivières là où se baignent les enfants, les machins, puisqu'après tout, les maladies de peau, les cancers, ça c'est encore autre chose. Christophe est allé sur les lieux justement prendre un petit peu de son et demander un petit peu aux gens ce qui s'y passait, comment on allait arranger les choses, etc. On va écouter ça en tout début d'émission. Ensuite, avec Ben, on s'est partagé une petite interview de Michel Souton, pardon. Michel Souton qui travaille dans un hôpital psychiatrique justement à Saint-Alban, puisque ce week-end sont les rencontres justement autour de la psychiatrie qui se déroulent à Saint-Alban, qui sont bien évidemment pour les professionnels, mais qui sont surtout ouvertes au public. Et nous, on s'est dit que c'était un sujet qui nous intéressait beaucoup et dont on parlait pas assez, en fait, suffisamment en général. Donc ça nous a fait tout plaisir de lui poser des questions, surtout que vous allez voir, son entretien était passionnant. Et puis enfin, en fin d'émission, il y a une autre interview du Tinals que je ne vous ai pas encore passée et que je suis très très fier d'avoir fait, puisque c'est un groupe québécois, et un groupe québécois que j'aime bien et que vous avez entendu sur cette antenne depuis déjà, je pense, 2 ans. Un groupe québécois qui s'appelle Chocolat, qui fait du rock psyché québécois justement, et qui était trop cool, qui était 6, qui était en face de nous, qui buvait des bières et qui ont bien voulu répondre à nos questions un petit peu dans l'ambiance du Tinals. C'était vachement chouette. Comme vous l'entendez, il y a beaucoup de choses à voir ce matin, donc on va commencer tout de suite avec qu'est-ce qui se passe dans le monde, mais bien évidemment là c'est un petit peu plus qu'est-ce qui se passe en Lozère pour le coup. Qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui?
On sait pas, tout le monde ment.
Alors là je suis avec Christophe du Marazeil. Bah alors qu'est-ce qui vous arrive encore une fois là par là-haut?
Ben, une fois de plus il y a un camion qui a loupé un virage et qui a déversé son contenant dans la rivière. Hélas le contenant c'est encore des produits toxiques, quoi. En l'occurrence du gasoil. Quoi.
Christophe Ramel, maraîcher à Nozières, au hameau de Marazeil. La dernière fois, c'était du fioul lourd, c'est ça, ouais?
Oui, c'est ça.
Et ça a mis combien de temps avant de se réassainir?
D'après ce qu'on a entendu dire de la Fédération de pêche et compagnie, la rivière était juste en train de se remettre un peu de tout ça. Quoi. Voilà.
Et là, c'est reparti pour combien de temps?
On ne peut pas savoir.
Vous faites du maraîchage?
Ouais.
Qu'est-ce que ça va donner pour vous?
En fait, nous, on n'est pas vraiment en termes de maraîchage et compagnie. Vu le premier accident, on avait quand même tiré des leçons. Donc, on pompe l'eau plus haut que là où l'eau est polluée depuis déjà bien longtemps. Et après, le problème, c'est plus, voilà, on vit au milieu d'une rivière morte, quoi, à l'heure actuelle. Donc, au bout d'un moment, c'est pénible, quoi. On n'est pas venu habiter en Lozère pour être à côté d'une rivière morte.
C'est une rivière morte, mais il n'y a pas que ça. Comme effet de ce camion qui s'est renversé, qui a déversé ce fioul, c'est quoi? C'est des odeurs?
Évidemment. C'est des odeurs de gazole en permanence actuellement. La première fois, il a fallu 8 ans pour que ça se remette. C'était quelque chose de quasi pas polluant, parce que c'était quasiment plus que de la matière organique. Le fioul lourd, c'est ce qui reste après le raffinage, donc c'est quasi que de la matière organique. Là, par contre, c'est du gasoil, c'est donc au contraire le produit le plus toxique qu'il puisse avoir dans une rivière. Donc là, pour le coup, c'est vraiment tout mort, quoi.
Alors, je crois que c'est le quatrième accident en 20 ans.
C'est ça, ouais. Ouais. C'est une matière dangereuse, quoi, parce qu'après, on en est à, d'après M. Jassin, on en est à 20 accidents ou 25 accidents en 30 ans, quoi. D'accord. Sur ce virage-là, donc...
Il s'agit toujours du même virage,
hein. Oui, ou de la même portion, mais je crois qu'après, bon, ben, la question, elle n'est pas vraiment que dans ce virage-là, quoi. Est-ce qu'on peut continuer à faire passer autant de produits toxiques sur une route qui traverse une cinquantaine de rivières entre Alès et Mende? À un moment donné, c'est peut-être un peu irraisonnable, quoi. Mm-hmm. Surtout qu'il y a la 75 qui avait été prévue pour que les poids lourds passent par là-haut. Et que l'effet viaduc à 36 euros pour un poids lourd, eh ben, ça n'a eu que l'effet inverse, quoi. On a eu encore le témoignage de chauffeurs ce matin qui nous disaient « Mais nous, si nos patrons ils nous disaient qu'on peut prendre le viaduc, on prendrait le viaduc parce que cette route, c'est insupportable pour nous. » Les patrons, ils décident que les chauffeurs ils doivent passer par là pour économiser au prix des rivières de Lozère, quoi. Et peut-être du tourisme, et peut-être des paysans, et peut-être de la vie, quoi.
Oui, parce que là, comme impact, ça sent le fioul partout dans Hispaniac.
Oui, Hispaniac, même jusqu'à Saint-Enimi, on peut sentir le gasoil. Le gasoil, c'est hyper volatile, ça se mélange hyper bien à l'eau. Du coup, de 12 000 litres de gasoil, on est passé à je sais pas combien de millions de litres d'eau gazoilée. Combien de temps il faut que ça, pour que ça se barre?
Et là, je vois que vous vous bloquez, vous faites des petits barrages filtrants, quoi. Et qu'est-ce que vous demandez exactement?
En fait, nous, on demande essentiellement l'arrêt du passage des matières dangereuses sur ce national. Si on arrivait à interdire les poids lourds, ça serait encore plus formidable, parce que je pense que les infrastructures ne sont pas faites pour ça. Rien qu'à voir le nombre d'accidents qu'il y a chaque année entre camping-cars, entre tout ça. Si déjà on arrive à interdire les matières dangereuses, et l'international aussi peut-être, parce que du coup, à l'heure actuelle, je crois qu'on est à pas loin de 300 camions par jour. Avant le viaduc, on était à 100, quoi. L'effet viaduc, merci, quoi.
Alors bon, par rapport à vos revendications, est-ce que vous avez eu des réponses un peu positives du territoire, de la DIR, du conseil départemental?
La mairie d'Hispaniac aimerait bien que ça évolue. La fédération de chasse aimerait bien, de pêche aimerait bien que ça évolue. Après, voilà, la nationale, c'est l'État qui le gère. C'est pas le département, c'est pas la région, c'est que l'État, quoi. Donc la seule porte, c'est la préfecture. Et la préfète, pour l'instant, n'a pas, enfin, je sais pas, elle est pas venue aujourd'hui, elle cherche pas à contacter qui que ce soit, ni les mairies, ni la fédération de pêche, ni personne, quoi.
Parce que là, on se situe dans le parc national des Cévennes.
Aussi.
Qu'en pense le parc national des Cévennes?
A priori, ils étaient inquiets de tout ça, mais ils sont pas là aujourd'hui, donc on sait pas. Nous, on est des citoyens comme tout le monde, juste on se dit qu'à un moment donné, il faut faire les choses. Après, on sait pas plus ce que les autres en pensent.
Ça s'est passé vendredi après-midi, donc qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes monté en collectif, en association, vous attendez d'avoir des rendez-vous pour enfin poser certaines conditions?
En fait, nous, ce qu'on attend, c'est d'avoir le temps de vivre correctement avec nos valeurs, c'est-à-dire préserver l'environnement, faire de la paysannerie, cultiver correctement les terrains, élever nos animaux correctement. Et là, aujourd'hui, j'ai préféré être ailleurs que passer ma journée à manifester au bord d'une route mon mécontentement, comme ça a déjà été le cas auparavant. Ce week-end, j'avais beaucoup de choses à faire avec le temps qu'on a eu ces derniers temps. Le maraîchage est plus qu'à la bourre, les clôtures sont plus qu'enherbées et on a du travail. Et à la fois, on peut pas laisser passer ça. Quoi. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'on nous laisse le temps de vivre sainement et qu'on arrête de faire passer des choses complètement dangereuses au-dessus de nos têtes, quoi. Enfin, simplement, pour exemple, les communes d'Hispaniac, Quézac, Saint-Enimi ont été au courant le samedi, quoi. La désinformation de l'État vis-à-vis de toutes les communautés, que ce soit les pêcheurs, que ce soit les mairies, que ce soit tout ça, elle ne se fait pas du tout, quoi.
Ouais, les services de l'État qui sont pas réactifs, quoi.
Tout à fait, ouais.
Et puis, malgré l'urgence.
C'est surtout qu'on cache la chose, parce que dès le début, s'il n'y avait pas eu des citoyens pour appeler les médias, il n'y avait personne qui le faisait, quoi. Donc, à un moment donné, dès qu'il y a des accidents aussi graves que celui-ci, parce que celui de 9 ans, il paraissait super grave parce qu'il se voyait beaucoup. C'était quelque chose comme une marée noire, quoi. Là, on va dire que ça se voit moins. Heureusement, ça se sent. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus dangereux et beaucoup plus nocif. Les invertébrés à Saint-Enimy sont déjà morts. Enfin, je veux dire, dès que des animaux meurent à 25 km de là où le gasoil a été mis, c'est que quand même... C'est bien plus dangereux.
Votre présence ici pour ce blocage, c'est dû à quoi exactement?
Ouais, c'est dû à la défense de notre environnement principalement et de toute activité économique, qu'elle soit touristique comme agricole.
Dominique Serrano, Le Vigos, commune d'Ispagnac.
Ça fait quand même plusieurs fois qu'il y a des problèmes dus au poids lourd. Il semblerait que même deux jours avant, il y en ait eu un autre qui ait vidé que sa cargaison un peu plus haut. Et je ne pense pas que ça soit en coupant les virages et en permettant une vitesse accrue des semi-remorques, des poids lourds, qu'on réglera le problème. Il est avant tout comportementaliste. Quand on a 600 ou 700 chevaux entre les mains, on doit rouler en fonction, comme en voiture quand on en a 150 ou 200. C'est dans la tête, il faut changer les mentalités. Alors est-ce qu'il faut prendre un gros marteau pour taper sur la fourmi? Je ne sais pas, j'en suis pas sûr. On essaie de sensibiliser les gens et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous allez demander que les produits dangereux soient dérivés de cette route?
Alors, ça va être compliqué si on veut quand même, parce qu'on est, conscient que nous roulons tous avec des véhicules et que nous avons besoin d'essence et de gasoil. C'est de pouvoir éventuellement instaurer une réglementation sur cette route avec une limitation de la vitesse sur certains produits. Parce que on est au 21e siècle et le progrès est toujours de plus en plus en marche. On ne peut pas tout interdire. Peut-être malheureusement serrer une fois de plus une vis avec une réglementation encore un peu plus accrue, puisque de toute façon c'est la seule solution que l'on peut apporter, mettre des interdits une fois de plus.
Mais en termes d'image, qu'est-ce que ça représente un accident comme ça?
C'est pas très très bon. Hier j'étais dans les gorges du Tarn et j'ai rencontré des touristes qui étaient en camping sur les bords du Tarn, et l'odeur de gasoil, ça ne peut pas être une très bonne image de marque dans une région qui se veut être le cœur du parc national des Cévennes, réserve de biosphère, etc. Pas très très bon pour l'image de marque et l'économie en général.
Le parc national a réagi là-dessus?
Alors, à ma connaissance, je ne sais pas. Voilà, j'ai pas de réponse à cette question.
Donc, on incrimine beaucoup les transporteurs routiers de vouloir économiser sur le viaduc de Millau, donc de dérouter leur camion pour passer ici.
Sympathisant.
La plus-value, elle est pour qui? Pour les transporteurs, pour les habitants, pour qui exactement?
Elle est pour personne, parce que le transporteur incriminé, malheureusement pour lui, ça va quand même lui coûter cher. La facture d'il y a 9 ans, d'après un transporteur qui était présent ce matin et sympathisant de notre cause, il faut bien le dire, pour pas le nommer les transports Jacin, parlait d'un chiffre de 1 million d'euros de frais il y a 9 ans. Et ils pensent qu'on s'en approcherait un petit peu, a priori, cette année. Alors le coût du viaduc, effectivement, pour eux, ça doit avoir un coût. Est-ce que c'est la seule cause de passer par ici? Je ne sais pas. En tout cas, on déplacerait le problème si on faisait passer les poids lourds par ailleurs, voire imaginer de ne pas leur faire payer le viaduc pour qu'ils rentrent en Lozère par une autre route. Enfin, pour moi, le problème, il est quand même comportementaliste. Le gars qui décide de rouler vite sur la 106, il va rouler vite aussi sur la 88, voire ailleurs. Donc, voilà, c'est une mentalité qu'il faut changer.
Parce que là, comment on peut décrire l'endroit où il y a eu un accident? Il me semble qu'il y a... Est-ce que c'est une enfilade de virages? Est-ce qu'il y a des lignes droites avant? Ça se configure comment pour les auditeurs?
C'est une enfilade de virages, et celui-ci est notamment très serré. Il semblerait, le bruit court, que le poids lourd roulait à 40 km/h. Je défie beaucoup de passer avec un chargement comme il avait à 40 km/h dans ce virage. Ça pouvait que mal finir. Il serait à 35, il serait certainement passé sans aucun problème.
En termes de fuel qui se serait déversé dans ce ruisseau, ça s'évalue à combien de litres ?
Les chiffres annoncés, y compris sur le site de la préfecture que j'ai consulté ce matin, seraient de 10 000 litres. dans un petit affluent comme le Bramont et sur le Tarn. Voilà, on parle d'odeurs qui seraient à l'heure actuelle jusqu'à Millau. En tout cas, sur les gorges du Tarn, elle est présente. Des témoignages que je juge valables parlent de la Malène, où il y aurait des traces et des odeurs.
Et il va y en avoir pour combien d'années ?
Le Bramont, lors du dernier accident, a mis, selon ce qui se dit, 8 à 9 ans pour devenir un vrai ruisseau propre. Espérons qu'on ne mette pas autant de temps.
Qu'est-ce que ça fait pour une habitante d'Espagnac aujourd'hui, cet accident exactement ?
Eh bien, déjà, ça pue la nuit, le soir, à partir de 21h. Ça sent vraiment très fort le gasoil.
Cécile Grandon, habitante d'Espagnac.
Pour une habitante, évidemment, c'est pas très agréable. Jusqu'au matin, on est obligé de fermer nos fenêtres et pour limiter les odeurs, voilà. Et je plains ceux qui ont planté leurs légumes, leurs fruits, les animaux qui boivent, les fromages, enfin, ceux qui fabriquent le fromage et tout. C'est vraiment malheureux pour eux, quoi. Et pour nous. Parce qu'on a envie de manger des bons produits. On vient habiter ici pour manger une bonne nourriture. Et à cause de nouveau d'un accident, parce que ce n'est pas le premier. Hein. Ça fait des années que le problème existe et toujours pas solutionné.
Là, c'est un ras-le-bol que vous avez.
Ah, vraiment une colère, une grande colère et un ras-le-bol. De cette situation, il pourrait au moins faire un aménagement dans le virage, à la hauteur de Nozières, une signalisation par des panneaux de ralentissement, je sais pas, des petites ampoules clignotantes, quelque chose, pour réduire la vitesse, déjà. Et peut-être la solution, c'est de faire dévier les camions, peut-être par l'autoroute. Mais bon, pour une année, pour une fois qu'il avait bien plu, qu'on avait de l'eau et qu'on pourrait éventuellement, agréablement se baigner cet été, eh ben, c'est compromis, quoi. Voilà.
Et la saison touristique ?
Eh ben, elle va en prendre un coup, hein, je pense, hein, parce que si les gens ils ont envie de nature, d'espace vert, d'eau claire, de manger bien, c'est un peu compromis, quoi. Hein.
Comment vous avez été prévenu de cet accident et à quel moment ?
Moi, j'ai été prévenu vendredi soir à 23h par l'ARS.
Flore Théron, maire de la commune de Quézac.
Qui s'inquiétait des conséquences de cet accident et donc du fioul qui s'épandait dans le Tarn au niveau des captages pour l'eau potable de consommation. Mais ensuite, le lendemain, ce que je déplore, c'est de n'avoir pas été prévenu au regard du Tarn qui était visiblement très pollué et pour lequel nous n'avons pas été alertés au regard des eaux de baignade, même si actuellement la baignade n'est pas tout à fait à l'ordre du jour. Donc je le déplore et voilà. Et sinon, eh bien, je trouve que cette affaire est lamentable et que depuis bien longtemps, des mesures auraient dû être prises pour sécuriser ce virage que tout le monde connaît comme étant dangereux, notamment pour les camions, au regard de la capacité actuelle des poids lourds de rouler à 50 à l'heure, ce qui pour certains est incompatible avec le tracé de ce virage.
On a l'exemple d'une fille de 4 ans qui se baignait au Chambonnet.
Bah, ce qui est assez ahurissant quand même, c'est que les gens n'aient pas senti, parce que l'odeur était telle que je ne comprends pas comment les gens ont pu pénétrer dans le Tarn. Donc déjà, il y a une inconséquence des promeneurs à cet égard. Et puis pour le reste, il aurait fallu mettre les points de baignade, il y en a très peu. Et nous sommes responsables des points de baignade autorisés. Sur la commune, la commune déléguée de Quézac, nous n'avons qu'un seul point au camping d'Aileron, et tout le reste n'est absolument pas destiné à la baignade. Donc on ne peut jamais empêcher des gens de façon autonome d'entrer dans le Tarn. Mais avec l'odeur qu'il y avait, c'est quand même étonnant.
C'est les services de la préfecture qui vous ont prévenu ?
Pour la baignade, moi j'ai été prévenue par ma collègue, par Guylaine Pantel, la première adjointe d'Espagnac, samedi matin.
Merci Flore.
Et voilà, auditeurs, auditrices, un petit résumé de ce qui se passait en tout cas sur place à ce moment-là. Et notamment aussi venant de la mère de Cayzac, je vous laisserai en tirer les conclusions qu'il se doit. C'est vrai que j'aime bien l'idée de... les petites filles ont été se baigner, après ils avaient qu'à sentir le thym. Bref, après c'est d'autres choses. Avant de passer à la suite, puisque comme je vous l'ai dit, on a beaucoup de choses à voir et j'ai très envie de vous écouter. Michel Souton, justement, qui travaille à l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban. Je vous propose une petite pause musicale, auditeurs, auditrices, et il y a quand même, puisque ce sont mes dernières émissions ici, il y a quand même quelque chose dont je suis très 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 content et dont je vais me vanter un petit peu, c'est que, hein, ici, bien évidemment, ma communauté, celle que j'appelle la communauté gamer, voire la communauté geek, n'est pas excessivement bien appréciée, hein, ce n'est toujours pas... Ici, c'est pas encore arrivé comme une culture ou un art, hein, surtout pour ceux qui adorent sortir dehors et qui pensent que nous, on ne sort pas dehors, on reste devant les écrans, mais ça a été très compliqué pendant 2 ans d'essayer de discuter de ça. Vous savez, c'est un petit peu plus que des petits jeux, les jeux vidéo, c'est un petit peu plus que tout ça. C'est une culture, c'est autre chose, etc. Ils disent, oh, mais c'est pour les enfants. Oui, c'est pour les enfants, c'est adorable. Du coup, ma petite vengeance personnelle était de mettre plein de très bonnes musiques, justement, composées par des compositeurs, que ce soit de jeux vidéo ou d'animés, dans cette playlist. Vous en entendez plein depuis 2 ans. Et quel bonheur c'était quand j'entendais des gens qui me disaient, j'adore ce morceau. Et que je leur disais oui, tout à fait, c'est une OST de jeu vidéo original. Donc du coup, pour ce matin, je me suis dit que la petite pause musicale irait très bien avec une OST absolument fantastique venant d'un des plus grands animés qui n'a jamais été créé, un truc qui a bâti et qui a été un pilier de mon enfance, l'animé Cowboy Bebop, et l'OST composée par Yoko Kanno et le groupe Seatbelt avec le morceau Rush. L'OST de Cowboy Bebop, l'excellent animé composé par Yoko Kanno, l'une des grandes compositrices japonaises de jazz actuelle, et interprété par le groupe Seed Bell, qui est donc l'ouverture, ce qu'on appelle un opening, des animés, du coup, de chaque épisode de Cowboy Bebop. Et oui, si j'aurais peut-être un tout petit peu réussi quelque chose ici, c'est peut-être de faire comprendre à certains que la communauté gamer n'est pas une suite de geeks qui restent devant leur écran, mais que c'est, comme je le disais, une culture et un art, et que ça n'a pas lieu d'être méprisé comme ça peut l'être ici. Voilà, c'était un défi, j'ai pas autant relevé que j'aurais pu, mais c'était quand même très chouette. Comme je vous l'ai dit, auditeurs, auditrices, avec Ben, on a contacté Michel Souton, qui travaille à l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban, puisque ce week-end s'ouvre du coup une rencontre qui s'appelle en fait réinventer un petit peu, refabriquer. Fabriquer, c'est le mot, et vous allez voir que le mot fabriquer est très important. Fabriquer l'ordinaire pour les patients, en fait, simplement, qu'il y a là-bas. Je trouve déjà cet énoncé absolument fantastique, comment on fabrique un ordinaire. Je vous laisse écouter Michel Souton, que Ben et moi avons interviewé ensemble.
J'ai quelques questions à vous poser.
Bien, maintenant je pose une question.
L'interview des Bartas.
Nous sommes aujourd'hui avec Monsieur Serge Souton, infirmier en psychiatrie, pour parler de la 33e rencontre de Saint-Alban, qui aura lieu les vendredis 15 et samedi 16 juin, donc ce week-end, organisé par l'association du personnel de Saint-Alban. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Bienvenue sur nos ondes. Alors, ces rencontres s'appellent cette année la fabrique de l'ordinaire et du familier en institution. Alors, en quelques mots, pourquoi avoir choisi ce thème et comment on pourrait le résumer ?
Ouh, le résumé, ça va être délicat parce que c'est irrésumable. Que dire là-dessus, c'est que tout ce qui est de l'ordre de l'ordinaire, et voilà, nous, ce qui pour nous est une évidence, ce qu'on fait régulièrement. Ne l'est pas chez les personnes qu'on côtoie et qu'on est amené à soigner, quoi. Je sais pas quoi vous dire par rapport à ça, mais si ce n'est que, voilà, on a réfléchi là-dessus, essayé de voir comment rendre cette évidence un peu plus facile. Enfin,
oui. Pour préciser peut-être un petit peu la question, moi j'aimerais savoir, parce que les mots, je suppose, ne sont pas choisis au hasard, fabriquer l'ordinaire, c'est quand même deux mots qui sont assez spéciaux ensemble. Et est-ce que c'est fabriquer l'ordinaire pour ces personnes-là, justement, leur fabriquer un milieu sociétal qui sont adaptés pour eux, ou est-ce que c'est plus justement que eux, comme ils ne sont pas dans un ordinaire, le fabriquer pour vous ou pour les personnes qui les côtoient?
C'est, mais disons que les deux sont liés, en fait, hein. Moi, je remonte à l'origine de la création du mouvement de la psychothérapie institutionnelle. Il partait d'un constat que l'institution était nuisible pour les patients, en fait. C'est-à-dire que, quand on parlait d'institutionnalisation, de choses comme ça. Et donc, le mouvement, ce qui était le pendant de la psychothérapie institutionnelle, c'était d'essayer de soigner l'institution pour être moins nuisible auprès des patients.
Le milieu institutionnel était considéré comme mauvais pour les patients, nuisible.
Voilà, nuisible. Ce qui a conduit en Italie, d'ailleurs, à la fermeture des hôpitaux. Ils faisaient le même constat. En Angleterre, l'antipsychiatrie, enfin voilà. Et nous, sur Saint-Alban, c'est inventé un concept qui est la psychothérapie institutionnelle, où on gardait l'institution, mais on essayait de soigner l'institution et de faire en sorte que tout le monde puisse y trouver son compte, et les soignants et les soignés. C'est-à-dire qu'il y avait, une partie du principe que quand il y a une équipe qui dysfonctionnait, qui allait mal, ça retombait automatiquement sur les patients, donc il fallait faire en sorte qu'il y ait quelque chose d'assez homogène et de bien vivre ensemble.
Et est-ce que vous pouvez nous donner éventuellement quelques exemples, même si je pense que ça doit pas être simple, de voilà comment on fait pour que les institutions ne soient plus nuisibles aux patients et pour qu'il y ait ce vivre ensemble entre vous et eux et même nous?
Mais disons que ce qui se faisait à l'époque, parce qu'actuellement c'est beaucoup plus délicat, c'était surtout de réfléchir tous ensemble, c'est-à-dire que de façon hebdomadaire, il y avait une réunion où les médecins étaient invités avec les malades, avec les cuisiniers, avec les ouvriers d'entretien, avec tout le monde, essayer de mettre à plat les problèmes, d'inventer un futur, de créer des bricoles, mais qui faisait un trait d'union, qui faisait quelque chose de... Ouais, d'homogène, enfin, et chacun trouvait son compte. Chacun avait sa place, pouvait donner son mot. Alors, bon, il y avait des mots plus raisonnables que d'autres, qui étaient un peu moins raisonnables, mais au moins, il y avait quelque chose d'une création commune. C'était un univers commun, Et c'est là que c'est inventé à l'époque. Donc, je parle là des années juste après-guerre, hein, parce que c'était 40 et des poussières. C'est inventé en fait l'ergothérapie, c'est-à-dire que les patients travaillaient dans des ateliers, ils percevaient un pécule, une rémunération, et il y avait après toute la sociothérapie. Il y avait du, c'est là où sont apparus les premiers cinémas. Mmh. Sur Saint-Alban, il n'y avait pas de cinéma en ville, mais il y en avait un à l'hôpital. C'est là où il y avait une bibliothèque, c'est là où il y avait un club thérapeutique. Enfin, voilà, c'était
un vrai espace de vie, quoi.
Ah, mais c'était une institution dans les murs, parce que c'était clôturé à l'époque, mais il y avait une vie. Ils ont même frappé monnaie à un moment donné à Saint-Alban. Mmh. Il y avait une monnaie qui avait cours que dans l'hôpital, mais qui permettait d'aller s'acheter des choses au magasin, d'aller de payer des entrées au bal ou de payer des... Enfin voilà, il y avait une institution, vraiment une ville dans l'hôpital.
Génial. Et donc justement, si on reparle donc de ces 33e rencontres de Saint-Alban, on va pouvoir donc assister à des ateliers, à des conférences. Alors simplement, à qui s'adresse ce week-end ? C'est ouvert à tous ou plus aux professionnels de la psychiatrie ?
Alors c'est ouvert à tous les gens qui travaillent dans le médico-social, dans le sanitaire. Après, on fait intervenir aussi des gens qui viennent des milieux de la philo, des milieux de la socio. Enfin, en règle générale, c'est quand même des professionnels de la santé qui y sont, mais ça serait pas fermé à l'extérieur. Hein.
D'accord. Parce que d'un point de vue populaire, on a toujours l'impression que la psychiatrie est pleine de clichés, en fait. Et donc, justement, comment on peut faire pour améliorer l'information du public sur ce milieu, en fait ?
Il y a déjà un domaine qui a de plus en plus cours, c'est par le biais de ce que j'appellerais l'art brut.
Uh-huh.
Donc, on voit bien l'essor que ça a pris au niveau des musées. Hein, donc, l'art brut qui a ses origines aussi à Saint-Alban.
D'accord.
Et donc ça s'est traduit par les arts plastiques qui sont maintenant exposés à Lausanne ou à Lille, enfin voilà, qui ont vraiment une cotation énorme. Il y a des films qui traitent de la psychiatrie de plus en plus. Enfin, le public s'intéresse quand même à la psychiatrie, avec des choses qui frôlent le surréalisme par moment. Il y a des traitements un peu. Disons que c'est un peu dans l'air du temps. Et par ce biais-là, disons que nous, on consacre à la fin des débats sur la journée, on a un temps de forum où justement sont diffusés films, expositions, tout ce qui a pu être produit par des patients ou autour des patients.
Vous le disiez, c'est dans l'air du temps peut-être un petit peu plus de s'intéresser à ce genre de domaine. Est-ce que vous avez quand même pas toujours l'impression qu'il y a un grand fossé entre la vision qu'on peut en avoir dans la culture populaire et vous, votre quotidien de côtoyer ce milieu-là tous les jours?
Disons que dans la culture populaire, ce qu'il y a, c'est que la psychiatrie, souvent, c'est au travers de choses rigolotes. Hein, accroche-toi au pinceau, j'enlève l'escabeau, des choses comme ça.
Pardon, j'adore cette blague. Oui.
Disons que nous, dans le quotidien, il y a des fois où on est confronté à des discours qui sont surréalistes, mais quand même, c'est souvent une grande souffrance. Attendez, j'accueille une collègue qui rentre. C'est souvent, enfin, quand même, la plupart du temps, c'est quand même une grande souffrance. Il suffit de déambuler en ville et on voit que une bonne partie des SDF qui sont là n'ont pas de place dans la société ni dans l'hôpital. Voilà. C'est pas que de la psychiatrie, c'est pas que de rire, donc, et c'est ça qu'on rencontre nous un peu plus souvent, quoi, quand même.
D'accord. Et donc ces rencontres là, en fait, si vous pouviez nous parler un peu plus concrètement de comment ça va s'articuler.
Alors concrètement, on a consacré la première matinée sur une séance plénière, en fait, c'est-à-dire que là, il y a des gens qui ont écrit autour de ça, la fabrique de l'ordinaire, enfin voilà, qui dissertent sur qu'est-ce que c'est l'ordinaire, qu'est-ce que c'est le familier, quels sont les travers qu'il peut y avoir là-dedans. Donc il y a des intervenants là qui vont faire part de leur expérience, repartir sur ce qu'ils ont écrit. Et puis après, la particularité de Saint-Alban, c'est qu'on va accueillir surtout des équipes qui sont venues de toute la France, qui ont souhaité intervenir par rapport au thème qu'on avait défini au départ.
Mmh.
Et donc voilà, c'est L'après-midi, ça sera des ateliers, donc les équipes vont venir présenter leur travail, ça sera soumis à discussion. Le lendemain matin, c'est pareil, on continuera sur les ateliers. Et puis, on terminera sur une table ronde, donc il y aura une manifestation, il y aura une pièce de théâtre qui lancera la table ronde du samedi après-midi.
Et vous parliez justement, il va y avoir des rencontres entre professionnels, entre conférenciers et même entre publics. Est-ce qu'il y a des rencontres qui se font entre patients du coup de Saint-Alban et professionnels venus d'ailleurs, et même voire patients et publics?
Alors, la particularité des rencontres de Saint-Alban, c'est qu'elles se tiennent à l'intérieur de l'hôpital. Donc, voilà, on a obtenu encore pour cette année cette autorisation-là de tenir les rencontres, en fait, dans l'hôpital. Donc, de fait, les patients, eh bien, ils sont là, et sur le temps d'accueil, le matin, quand on boit un café, eh bien, ils sont présents, et ils peuvent aussi venir intervenir, parfois, dans les ateliers. Et, voilà, c'est un lieu qui est pas... C'est dans l'hôpital, mais c'est ouvert, bien sûr, c'est ouvert aux patients, parce que c'est le lieu où ils sont en résidence actuellement. Mmh. Et les gens de l'extérieur peuvent aussi venir, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que donc le vendredi, en fin d'après-midi, voilà, c'est toute la partie forum avec les expos, tout ça. Donc il y a des gens de l'extérieur qui peuvent venir voir les films, visiter les expos, bien sûr. Et... Donc c'est vraiment l'interface un peu entre toutes les populations, professionnels, patients et spectateurs.
D'accord. Et donc pour les participants extérieurs, j'ai vu qu'il y avait une participation aux frais. Comment ça se passe? Combien c'est, en fait, pour des infos pratiques?
Alors, pour les infos pratiques, là, ça va être un peu court pour s'inscrire, mais c'est souvent des personnes qui s'inscrivent dans le cadre de la formation continue.
D'accord.
Donc là, c'est voilà, si c'est dans le cadre de la formation continue, c'est 280 € pour les journées, pour les deux jours, avec les repas de midi compris.
D'accord.
Et après, on a fait des tarifs, on a décliné les tarifs pour ceux qui viennent en individuel ou les étudiants et chômeurs. Donc, étudiants et chômeurs, par exemple, c'est 30 €, quoi, pour participer au congrès.
D'accord. Et là, c'est trop tard pour s'inscrire ou c'est encore possible pour eux?
C'est encore possible. Maintenant, bon, ça attaque jeudi soir, on commence à accueillir les congressistes. Donc, ça devient de plus en plus urgent de se manifester pour les gens.
D'accord. Bon, et puis une question un peu plus générale, hein, justement, comment se porte la psychiatrie en Lozère, hein, tant au niveau moyen humain que financier? Comment vous la voyez-vous aujourd'hui?
Je trouve qu'actuellement, on passe beaucoup de temps à se couvrir, on passe beaucoup d'énergie là-dessus. Et c'est un peu pour ça que des fois, ce qui est du familier, ce qui est d'ordinaire, ça va vraiment pas de soi, même pour les soignants. C'est-à-dire qu'on passe une énergie à faire en sorte que tout soit garanti à gauche, à droite, qu'il ne se passe rien. Et voilà, nous, on pense que pour soigner, pour aider les gens, il faut justement qu'il se passe des choses. Oui. Donc, à un moment donné, il y a en effet un peu de prise de risque. Moi, j'aurais l'habitude de comparer aux enfants, par exemple, à un moment donné, s'ils veulent apprendre à marcher, eh bien, il faut prendre le risque qu'en effet, ils tombent. On peut pas les maintenir dans du coton avec des casques et des machins. Enfin,
bien sûr.
Donc la vie, c'est une prise de risque. Et là, la société actuellement, hélas, eh bien, elle voudrait parer à tout. Et donc du coup, c'est un peu... Ça tire vers l'enfermement plutôt que vers l'ouverture, quoi.
Et alors, vous avez évoqué plusieurs fois l'ordinaire, et il y a une phrase dans le communiqué de presse qui m'a marqué, qui est que il y a cette inévidence de l'évidence. Ça, c'est une phrase que je tire de votre communiqué. J'aimerais bien savoir, et je me rends bien compte que la question est très vaste et qu'on peut pas la couvrir dans une interview d'un quart d'heure, mais quand on est face justement à ça, à quelqu'un qui a l'inévidence de l'évidence, vous, votre rôle en tant qu'infirmier, comment on dialogue, en fait, simplement, comment on essaye d'instaurer un dialogue, voire même de se confronter si nécessaire, comment on fait ça?
La confrontation n'est peut-être pas nécessaire. Moi, je pense qu'il faut déjà recevoir la parole, l'inévidence de la personne qu'on a en face, et puis peut-être essayer de liaiser la chose en disant oui, bon, c'est une vision des choses, mais on peut aussi voir différemment et amener d'autres éléments. En fait, c'est pas de s'affronter, c'est pas d'annuler la parole de la personne. Voilà, la personne qui a un fonctionnement similaire, et c'est qu'à un moment donné, c'est comme ça qu'elle le voit. Et nous, on essaye je dirais, d'épauler pour peut-être faire changer un peu de point de vue et essayer de trouver un point commun pour pouvoir échanger correctement, quoi. Avoir un terrain commun, quoi.
Je reviens juste sur une chose que vous avez dit au tout début, parce que ça m'a énormément intrigué, cette histoire de monnaie qui est uniquement dans l'hôpital. J'aimerais juste bien savoir comment c'est mis en place. Est-ce qu'il y a quand même un service rendu de la part du patient? Est-ce que c'est en échange de quelque chose? Ou comment ça s'est mis en place, on va dire, cette économie parallèle?
Alors, cette économie-là, bon, déjà, c'était dans le contexte où l'hôpital était clos, hein, c'était fermé. Donc, comme il y avait une société qui s'était bâtie dans l'hôpital, hein, avec du travail et des loisirs, tout travail mérite salaire, donc il y avait une rémunération qui était payée avec des sous, en fait c'était des pièces qui étaient trouvées, qui étaient frappées, donc voilà. Et ça amenait les patients à avoir déjà de l'argent à gérer. Comme il y avait un commerce à l'intérieur de l'hôpital, ce qu'on appelait le salon de coiffure, donc ils faisaient salon de coiffure, mais qui vendaient aussi à manger, à boire, des choses. Les patients pouvaient, avec cet argent-là, améliorer, je dirais, l'ordinaire, quoi. Donc, ils travaillaient, certains travaillaient à la poterie, d'autres travaillaient le bois, d'autres, il y avait une imprimerie à l'intérieur de l'hôpital, il y avait... Donc voilà, c'était vraiment... Ça a fonctionné le temps que l'hôpital est resté clos. Et c'est justement après, en fait, que... Alors, pour vous dire, pendant la guerre... Il y avait beaucoup de patients, des hommes, qui étaient hospitalisés. Et comme dans les fermes, aux alentours, les personnes valides étaient parties au combat, souvent les gens se sont rappelés de l'oncle qui était à l'hôpital à Saint-Alban, qui était un peu bizarre, mais que peut-être que quand même il pourrait travailler à la ferme. Donc il y avait eu tout un début d'ouverture, ce qu'on appelle le secteur, c'est-à-dire que les gens sont revenus dans leur famille, accompagné par des infirmiers qui venaient faire des visites régulières. Et ça a été le début du secteur, c'est-à-dire que les patients ont pu revenir sur l'extérieur. Et c'est après, par la suite, que l'hôpital, enfin voilà, il y a avec Toscaïès, il faut le nommer quand même, parce que l'hôpital porte son nom, Toscaïès, qui a soutenu l'idée de tomber les murs et d'ouvrir vraiment l'hôpital sur le village. Donc maintenant, il n'y a plus les murs de clôture comme il y avait avant. Mais bon, voilà, tout ça, ça a été une évolution, une dynamique d'ouverture de l'hôpital, en fait.
En tout cas, c'est génial, bravo, hein, c'est passionnant. Là, le temps passe vite, malheureusement, mais ce sera avec plaisir qu'on vous réinvitera sur cette antenne, si vous voulez nous en parler encore plus. En tout cas, chers auditeurs, chères auditrices, on était avec Monsieur Serge Souton pour parler des 33e rencontres de Saint-Alban, qui auront lieu les vendredis 15 et les samedis 16 juin, ce week-end donc, organisé par l'Association du personnel de Saint-Alban. Si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à téléphoner au 04 66 42 55 55 ou bien par leur email assoculturel@chft.fr. Merci beaucoup Monsieur Souton, on vous souhaite un bon week-end.
Merci, et on va essayer de passer un week-end fructueux.
Super, merci, à très bientôt.
Merci encore d'avoir été avec nous en tout cas.
Et voilà, auditeurs et auditrices, l'interview. Alors, dans l'interview, on parle de Serge Souton et l'interview est labellée comme Michel Souton. On s'excuse auprès de Monsieur Souton pour s'être trompé de nom d'une manière ou d'une autre. Voilà, on n'est pas sûr. C'est soit Serge, soit Michel. C'est pas Marcel, c'est pas Julien, c'est pas Georges, c'est pas Jean-Pierre. Bref, après ça, il reste encore une dernière chose que je voulais vous faire écouter, auditeurs et auditrices. J'ai eu la chance le week-end d'avant, lors du Tinals, de rencontrer le groupe Chocolat. Chocolat, c'est un groupe de rock psychédélique québécois qui était là du coup au festival, que vous entendez déjà sur cette antenne depuis un sacré bout de temps, puisque l'album qui est sorti en 2015, qui s'appelle TSS, c'est-à-dire TSS, plus loin TSS, est un album que j'aime énormément. On va parler de celui-là, on va écouter aussi des morceaux de celui-là, on va écouter des morceaux de celui qui est sorti en 2017 qui s'appelle Rencontrer Loulou. Et voilà, on a eu la chance de discuter avec eux, moi et d'autres médias qui étaient là. Alors je m'excuse déjà pour la qualité de l'interview, parce que c'était dans une grande pièce avec un petit micro, en fait, simplement pour les entendre. Donc vous allez voir, des fois ça va monter, ça va descendre, et qu'il y a certaines questions que j'ai dû réenregistrer pour que vous les entendiez bien. Mais je vous propose d'abord d'écouter un petit peu de Chocolat et ensuite justement de passer à leur interview.
j'entrais dans le studio Bleu de Paloma, j'entrais avec d'autres médias et d'autres journalistes pour pouvoir faire l'interview de Chocolat. Chocolat, ils sont tous là, ils sont 6, ils viennent d'arriver, apparemment ils ont très faim, comme ils vont le dire, et surtout ils ont des très bonnes têtes, c'est-à-dire ils sont tous plus ou moins très fins, des cheveux longs, longs, longs qui descendent, et la plupart avec des petites lunettes et une petite barbiche. Il y a peut-être presque un petit look geek des années 80, voire même fin 80, début 90. Ils ont tous des bières à la main, ils nous attendent, ils nous accueillent très gentiment et on commence l'interview avec eux sur le rock québécois.
Un, deux, un, deux.
Pas... Oh, ouais,
deux, c'est anglais.
C'est
Et donc, j'aimerais ça être chaud.
Ça fait quoi de revenir au Tinals, les gars?
Bien heureux, on est bien content d'être là encore. On aime ça, ici.
Mm. Ouais, c'est cool comme festival, vraiment. Je crois qu'il y a une nouvelle scène, c'est sûr, ça se peut-tu?
Ouais.
À côté de la Mosquito, il y a comme une deuxième grande scène. Il n'y avait pas ça avant, non?
Sinon, on n'a pas encore mangé, mais la dernière fois, la bouffe était bonne.
On ne peut pas dire sur cette année encore, on ne peut pas s'avancer. Quoi.
On ne peut pas s'avancer, surtout qu'on fait l'entrevue pendant qu'on pourrait manger.
Ah, merde.
C'était pour mettre tout le monde à l'aise.
Non, non, mais on va s'arranger.
C'est pas de notre faute, là.
Je l'ai, ça. C'est un bruit de découpage de saucisses. Ouais. Cherchez pas.
Surtout qu'en France, on voit de plus en plus de trucs québécois arrivés. Alors, on pourrait parler de films, on pourrait parler de musique, on pourrait même parler de personnalité. Est-ce que déjà, ça, cette espèce d'arrivée massive de la culture québécoise en France, vous vous en rendez compte?
Là, il y a beaucoup de groupes qu'on connaît chez nous, que peut-être vous connaissez pas encore ou peu, comme Hidalgo ou Corridor, Ponctuation. Manu joue dans Ponctuation aussi.
C'est bien de faire de la pub.
Je sais pas s'ils sont venus ici. Les autres.
Bah, les trois, oui, sont venus, mais.
Ouais. Les hôtesses de l'air aussi.
Ouais. On a des amis.
Ouais, ouais, c'est une scène qui. En fait, ce qu'on a en commun, c'est qu'on est toutes paumées.
Ouais. on a le même, sondier que Suns. Donc, ça, c'est un lien qui est clair, défini.
Mais non, le lien, il est assez amical, mais il n'y a pas beaucoup de collaboration, mettons, à tous les groupes que tu as nommés. On fait pas des choses ensemble à part se côtoyer puis
on se dit salut,
se donner des bins.
Ouais. C'est beaucoup Montréal aussi. Mais comment ça se fait à votre avis, justement, pendant des années, on a l'impression que la culture française a vraiment brouté. Elle a brouté ses collègues. Quoi? Non, attends, elle a brouté toute cette culture-là, justement, et tout d'un coup, il y a les portes qui s'ouvrent. On se dit, oh, mais tiens, ils font des trucs intéressants là-bas. Comment ça se fait à votre avis?
Mais je crois que ça vient en même temps, à peu près au même moment où les Français acceptent la culture française chez eux aussi. Il y a un renouveau de la chanson française ici aussi.
Ouais,
avec Moudoïd, je sais pas, Allomode.
Ouais. L'impératrice.
La femme.
Ouais. La femme,
ouais. Donc, je crois que c'est peut-être la France qui est plus ouverte à entendre de la musique avec un contenu autre que l'anglais. Ou...
Mm-hmm. C'est peut-être aussi des scènes plus, je sais pas, alternatives qu'on pourrait dire, mais qui s'organisent mieux avec l'Internet maintenant, puis les réseaux. En fait, les gens se rapprochent. Que les distances importent moins que... Ça a déjà coûté vraiment cher s'exporter. Maintenant, c'est relatif.
Faut pas oublier aussi qu'il y a... Mais faut pas oublier aussi qu'il y a des gens chez nous qui ont investi pendant des années pour inviter des programmateurs français dans nos festivals, puis qui ont vraiment tout fait pour leur plaire, puis peut-être que ça l'a aussi porté ses fruits. Là. Mais difficile à dire si c'est la qualité, est-ce que c'est le côté exotique de la musique francophone, mais un peu de l'Amérique, est-ce que c'est les efforts de l'industrie.
Ouais, c'est ça, c'est... C'est sûr que des deux côtés de l'océan, on a des chanteurs à voix, puis on a de la pop, mais c'est sûr que nous, c'est pas ça qu'on fait.
Ouais, c'est ça.
Peut-être que la musique, tout simplement, prend un peu plus de place aussi dans ces projets-là que la voix et les paroles.
Mais en même temps, je crois que, ben, tu sais, je sais que les Français ont joué sur la carte de l'étiquette, là, avec les histoires de French Touch et tout ça. Mais... Nous, je crois pas qu'on est prêt à dire qu'il y a une constance au moins esthétique dans ce que ces gens-là font. Là. Je crois pas vraiment qu'il y a un son québécois ou montréalais ou qu'il y a une façon. Il y a peut-être une façon d'approcher les choses ou une joie de vivre. Là, ou...
Je pense qu'il y a une certaine polarité aussi, peut-être Paris-Montréal qui
qui est en train de basculer dans les dernières années.
Complètement.
C'est plutôt des vases communicants désormais, tandis que jadis, j'ai l'impression que c'était plutôt vu comme une espèce de rapport d'ascendance systématique. C'est plus vraiment ça, les états français à Montréal et vice-versa.
Ouais.
Tout le monde
connaît Ouais. Il y a plus de Français à Montréal que de Québécois à Paris, mais...
Ouais, c'est vrai. Ouais. Dans le lot, mais quand même... Ouais.
Tout le monde a envie d'aller à France.
Ouais.
Ouais.
Même moi.
Bah, c'est pas cher. Puis,
Ouais, pour l'instant.
Revenir quand même à votre musique, puisqu'on est quand même là pour parler de ça, sans parler de genre de bac à disquaire, qu'est-ce que vous avez envie de renvoyer au public? En fait, qu'est-ce que vous avez envie que les gens se disent quand ils écoutent Chocolat?
Peut-être juste qu'on fait ce qu'on a envie de faire, genre qu'on fait pas de compromis, ou le moins possible, je pense qu'on en fait pas vraiment, mais à la base, ce qui est déjà suffisant. Ensuite, c'est dur de anticiper des perceptions de ce qu'on fait, mais bref, je pense que...
Est-ce qu'on peut dire qu'on fait du rock?
Ouais, on peut quand même dire qu'on fait du rock.
Après ça, les gens disent du rock quoi? Bah, ça varie d'un album à l'autre un peu. Hein. Mais on touche plusieurs trucs. Là.
Ouais. Puis on n'exclut pas qu'il y a une dimension pop dans ce qu'on fait aussi par moment. T'sais, c'est pas, on cherche pas comme une sorte de niche particulière, quelque chose d'abrasif ou de difficile d'accès. On aime que ça ratisse large quand même. Mais en faisant pas de compromis. Ce que c'est, souvent le mainstream fait, c'est ratisser large en faisant un paquet de compromis puis en diluant la matière. Fait que je pense que nous, on fait comme ça, mais ça donne ce que ça donne comme succès. Là. Mais pour nous, ça nous convient.
On s'en fout. On est cons, là.
Non, mais j'ai l'impression qu'on fait j'ai l'impression qu'on avait formulé ça comme ça récemment, mais on se prend pas au sérieux, mais on fait les choses sérieusement.
Ouais, ouais.
C'est un
ouais.
peu ça, le truc. Là.
Ouais, ça résume.
La ligne directrice.
Ouais, on rit de ce qu'on fait autant qu'on l'aime et on le prend au sérieux. C'est
souvent. Ok, on regarde.
En fait, souvent, si ça nous fait rire, c'est peut-être quelque chose à considérer sérieusement. Après, il y a des trucs plus sérieux, mais à la base, le squelette des chansons, c'est Jimmy, c'est paroles, les accords. Souvent, il y a des idées aussi d'arrangement. Après, quand ça tombe dans nos mains, tout le monde peut. Saupoudrer ses idées. Bon, tout le monde apporte des idées d'arrangement. Après. Mais le squelette des chansons vient de ce gars-là.
T'sais, les chansons sont pas créées en studio morceau par morceau avec plein d'overdubs. Puis c'est comme tout le monde joue tout le monde ensemble en même temps. Puis c'est aussi comme ça qu'on apprend les chansons et qu'on les travaille. Donc c'est très horizontal. T'sais, on part d'une idée qui est très claire. Jimmy arrive avec des idées qui sont très claires, qui ont encore beaucoup de place. Puis ensuite, on les construit ensemble. Puis ça va très vite. Ouais. On travaille quand même très rapidement. Non, c'est vrai, on travaille très rapidement. Ouais. Puis c'est un peu ça qui fait que c'est excitant. T'sais. C'est comme du moment qu'il y a du nouveau matériel, là, ça devient très excitant. Puis ça va vite, puis là, ça va sur la bobine. Ouais.
En tout cas, c'est excitant pour nous. Là.
On avait.
C'est vrai, ça reste le fun. T'sais. Le fun est plutôt important. Là, ça.
Justement, pour revenir quand même sur l'idée générale, parce que ça fait 10 ans que vous jouez ensemble, quand même. Chocolat, c'est 2007.
Ouais. Début, hein, c'est bon, ouais, on a commencé à l'hiver 2006 à peu près.
2006, ouais. C'est j'aime bien parce que quand on lit un petit peu les interviews au fur et à mesure des années, tu vois, au début, alors c'est pas moi qui le dis, hein, mais vous avez bâti une réputation de fouteur de merde, vous avez fait virer des bars, de nouveau. Et puis après, t'es arrivé d'autres choses avec l'album Je le fais bien.
Ouais.
Bien. Personne ne le fait bien.
Ouais, pas... attends, je
même nous, quand on vient pour en parler, comme. Ah.
Ben,
en tout cas, sur.
On a vu un petit peu. Alors, moi, j'ai lu qu'il y en avait maintenant donc, qui étaient pères de famille. Il y en a même un qui est fan de course à pied. Je ne sais pas lequel. Et il y en a qui écrivent aussi dans des yourtes en forêt. Il y a vraiment une évolution. Non, mais j'ai fait mes recherches.
Il y a des années qui ont passé, puis il y a des membres qui ont changé.
Ouais. Oui.
Il est viré la yourte en forêt ou...
Non, il est invirable.
Mais vous avez gardé la yourte en forêt, c'est votre choix.
Mais mais moi j'habite là à temps partiel.
D'accord.
Je suis entre Montréal et la yourte en forêt.
Du coup, sur vraiment l'évolution du groupe, vous le sentez ça justement d'être passé de on cherche la merde le soir, on veut pas que les bars ferment,
ouais,
quelque chose de différent sur l'évolution générale.
Ben on était dans vingtaine comme tout le monde, puis après c'est sûr que tu sais on se fatigue un peu de justement foutre la merde ou faire le party tout le temps.
Moi, je bois plus, je m'emmerde, là.
C'est fatigant de foutre la merde.
Ben, ça va avec une certaine énergie, ouais. C'est comme, ouais, c'est plus exigeant que d'être tranquille, c'est ça. Parce qu'il y a des répercussions, hein. Il y a des shows d'annuler, des tournées de...
Ah, des conséquences. Des
ouais, c'est ça. C'est plus exigeant quand ça te suit.
Mais il y a aussi, je pense que... je parle pour moi parce que c'est vrai que... Bon, je suis un vétéran du groupe maintenant. Isaël, il est plus là pour en parler aussi. Mais que on était quand même déçus dans cette période-là, des fois, de la qualité de ce qu'on rendait sur scène. C'est-à-dire on se rappelait pas vraiment d'avoir joué. Fait que puis on savait qu'on avait peut-être mal joué un peu, que le show est un peu un pétard mouillé.
Il y a des moments explosifs.
Il y a aussi des moments explosifs, des moments où ça fonctionnait, mais c'est donc pour essayer de garder une certaine qualité de ce qu'on offre au public, c'est le fun de se concentrer sur la musique plutôt que tout ce qui va autour.
Ben, moi, j'avais été brièvement dans un groupe à l'époque où c'était
chaotique, puis j'étais parti parce que c'était chaotique.
mais ça paraît beaucoup dans la musique, là, quand on écoute les premiers albums. Oui. Ça paraît que c'était un groupe qui cherchait le trouble, qui était explosif, puis là, on sent comme l'arrivée de la sagesse, là, tranquillement. Là.
C'est pas fou, hein?
Toute petite dernière question, Jean-Massard, justement, avec le, vu qu'on parle de grosses drogues, moi je vais parler des clips que vous faites, notamment, avec le morceau A1, là, du dernier album.
Ah ouais.
Je voudrais juste savoir, alors il y a toute une histoire de groupes de rock qui commence à avoir une montée spirituelle, les Chacals, les Faucons, etc.
C'est vrai, hein,
c'est
vrai.
C'est qui l'Overlord à la tête de guitare et à la hache?
C'est Loulou.
C'est lui, Loulou?
Bah ouais.
De l'album Retrouver Loulou. Donc là, c'est lui qu'il faut trouver, c'est le mec à la hache.
Enfin, l'album s'appelle Rencontrer Loulou et la chanson s'appelle Retrouver Loulou. On était très confus avec ça, nous aussi.
Retrouver Loulou sur la pièce sur l'album parle de le retrouver, mais dans l'album, ça parle de sa rencontre, en fait. Le groupe le rencontre. Puis ils deviennent un peu, mystico, louche. Mais parce que lui-même l'est, là, c'est comme un dieu un peu inquiétant.
C'est lui qu'il fallait rencontrer pour cet album.
Ouais.
Donc, vous l'avez tous rencontré ou pas?
Bah oui!
Oui! Parce qu'il y a de l'âge, il y a du sang sur sa hache quand même, mais il est sympa?
Je pense pas qu'il est sympa, non.
Pas fréquenté, pas très fréquentable.
En fait, c'est comme un gourou, tu sais, à un moment donné, ça fait mal. En général. T'sais. Au début, c'est comme, oh cool, mais finalement, ça se termine mal un peu. C'est un peu confus ce concept album-là, si on veut. C'est-à-dire qu'il y a une histoire, mais elle est un peu décousue, mais oui, Loulou, c'est le personnage suggéré sur l'album.
Il faut qu'on y aille, c'est ça, hein?
Ouais.
Et vous avez faim, en plus.
Ah, bah oui.